Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 65 du podcast Limitless. Je suis Louis Doucet, comme d'habitude. Pour les nouveaux qui arrivent, qui sont en train de se dire, putain, c'est quoi cette intro? Les amis, bienvenue sur ce podcast. On parle investissement, on parle entrepreneuriat, on parle un petit peu d'actualité et parfois, on change de sujet en cours de route, mais vous verrez dans l'idée aujourd'hui de quoi va-t-on parler. Je vous ai fait ces derniers jours une story sur Instagram en expliquant l'histoire inventée, mais qui a tendance à ressembler beaucoup à la réalité de certains, et parfois peut-être même d'entre vous, sur Instagram. Je vous ai raconté l'histoire de Paul qui achète sa résidence principale à cause de la pression psychologique de son entourage. Et on va décortiquer euro par euro pour vous expliquer à quel point Paul est en train de faire une énorme connerie. Et alors calmez-vous tout de suite. Je sais, oui, tu jettes tes loyers par les fenêtres. Les amis, calmez-vous. Le podcast a déjà commencé, vous me tombez dessus. Détendez-vous, ça va très bien se passer. Aujourd'hui, on va parler de ça dans un premier temps. Ensuite, je vais vous parler d'une loi, d'accord? D'une loi qui nous permet de ne pas payer d'impôts sur les plus-values quand on détient des sociétés. Et oui, les amis, c'est juste pour vous prouver. Enfin, pour vous prouver. J'ai rien à vous prouver, mais c'est juste pour vous expliquer comment fonctionne le système et pourquoi ceux qui ne maîtrisent pas la fiscalité sont des pigeons. En tout cas, c'est pas moi qui vous traite de pigeons, mais l'État considère que, en fait, comme les gens sont des gogols et que globalement ils préfèrent regarder la télévision que de se plonger dans le code. Des impôts, etc. Bah, en fait, il y a des dingueries qui sont à disposition des gens smart qui s'intéressent à la fiscalité. Et pour les particuliers qui sont salariés, qui détiennent leur résidence principale, comme le cas de Paul qu'on va décortiquer. Alors, parenthèse, j'ai choisi Paul parce que on m'est tombé dessus parce que je disais tout le temps Kevin. Mais vous inquiétez pas, on changera de nom la prochaine fois. On prendra un autre nom. Okay? On pourra même prendre un Louis, si vous voulez, s'il vous plaît. Tout ça pour vous dire, les amis, que ce podcast va être exceptionnel. Je vous le dis tout de suite. Donc, avant de commencer, abonnez-vous. OK? Petite note 5 étoiles. On n'hésite pas à partager le podcast à beaucoup de monde. Beaucoup, 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 beaucoup. Et avant de commencer, petit disclaimer. Enfin, non, c'est même pas un disclaimer, c'est une annonce. C'est que nige. Que nige. C'est un don. De la nature. Non, les amis, je vous ai mis à disposition une masterclass de 40 minutes qui est offerte. D'accord? On a eu des centaines de téléchargements et si vous l'avez téléchargé, vous savez que on a même des membres de mon équipe qui vous contactent pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé, si vous avez des questions, etc. J'ai tout mis à disposition pour vous aider à débuter gratuitement. Alors, quelle est votre putain d'excuse? Ok? Il n'y a pas d'excuse, les amis. Parce que, encore une fois, semaine après semaine, je vous l'explique. Certains se pensent protégés du fait de leur position parce qu'ils ont déjà de l'argent, etc. et qu'ils gagnent bien leur vie. Mais n'oubliez pas. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous êtes en capacité, sachant que, encore une fois, il n'y aura pas de retraite, l'État ne vous paiera pas votre retraite, d'accord? Donc, partant de ce constat, est-ce que vous êtes certain d'avoir la méthode pour accumuler assez d'actifs? Quand je dis actifs, c'est assez de biens que vous possédez, qui génèrent de l'argent. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions de société, ça peut être des ETF, des crypto-monnaies, crypto-monnaie, je le mettrai entre parenthèses parce que c'est pas ce que je vous recommande si vous voulez bâtir votre patrimoine. Ça peut être un actif rigolo en parallèle. Enfin, je dis rigolo, ça n'a rien de rigolo, mais je veux dire, c'est un actif un peu plus exotique. Mais en gros, aurez-vous assez de patrimoine pour pouvoir à un moment donné arrêter de travailler? Parce que sinon, je vous le dis, sachant qu'il n'y aura pas de retraite, il va falloir à ce moment-là travailler toute votre vie. Et est-ce que c'est ce que vous souhaitez? À titre personnel, ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas mon choix. Je ne pense sincèrement pas m'arrêter de travailler en réalité. Parce que quand tu entreprends, disons que ta vie est différente de la vie d'un salarié, parce que tu pilotes ton emploi du temps comme tu veux. Donc en vrai, la retraite des entrepreneurs généralement, et retraite c'est un mot galvaudé parce qu'en réalité c'est juste une question d'âge. Tu peux être à la retraite techniquement à 40 ans, mais c'est pour ça que je te dis que globalement, je m'arrêterai jamais de travailler. C'est que après, tu te focalises vraiment que sur de l'investissement. Je pense. Je te dis ça, on en reparle dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'ici là, on aura développé AD Gestion pour racheter l'Île-de-France et le patrimoine qui va avec. Et oui, les amis, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc, ne vous inquiétez pas. Installez-vous. On va pas parler de ma retraite. On n'en a rien à foutre. On va parler de la vôtre. D'accord? On va décortiquer le cas de Paul. Je vous fais un petit récap si vous n'avez pas suivi mes stories sur Instagram. Bon, c'est-à-dire que être pas très malin parce que je vous donne du contenu gratuit toute la semaine, d'accord? Je vous donne plein d'infos très pertinentes. Vous pouvez même suivre en plus mon quotidien extraordinaire. Non mais en gros, abonnez-vous. C'est la page Louis Doucet sur Instagram et la page Limitless LPDRG, le podcast le plus rentable du game. Sur Instagram, pour commencer. Pour commencer, faut-il acheter sa résidence principale? C'était le sondage que je mettais en avant, d'accord? Sur ma page Insta en story. Comme d'habitude, il y a eu des oui, il y a eu des non. Bon, les non, vous êtes majoritaire parce que mon audience est quand même un minimum éduqué. Mais pour les oui, et il y a des oui, malheureusement. Et même il y a des oui chez les gens très intelligents qui gagnent bien leur vie, mais qui font quand même des mauvais choix. Je vais vous donner le cas de Paul, qui ressemble à un cas que j'ai vu, qui s'appelle pas Paul, mais bref. Paul, 29 ans, vient de terminer ses études. OK? Il a terminé ses études il y a 4 ans. Il a fait des bonnes études. Il est plutôt bien rémunéré en sortie d'école, puisque 4 ans plus tard, il gagne 4 500 euros net avant prime, etc., etc., net par mois. Paul vit à Paris, dans le 15e arrondissement, du côté, bah, si vous connaissez Paris, du côté de entre Beaugrenelle et Lamotte-Piquet-Grenelle. D'accord? Pour ceux qui n'habiteraient pas à Paris, on est dans le 15e arrondissement, collé au 7e arrondissement, là où vous allez trouver la Tour Eiffel. D'accord, c'est un point de repère, je pense, si vous êtes déjà allé à Paris. En tout cas, c'est à côté de la Tour Eiffel, mais ce n'est pas le quartier de la Tour Eiffel. C'est juste pas très bon. Donc, Paul habite là. D'accord? Paul loue actuellement un 35 mètres carrés qui paye 1 200 euros par mois. D'accord? Il est a priori bien dans son 35 mètres carrés, mais Paul, tous les lundis, discute avec Jean-Michel de la compta à la machine à café. Aïe. Et Jean-Michel à la compta, Jean-Michel sait tout. Jean-Michel sait tout parce que Jean-Michel a acheté sa résidence principale il y a 20 ans et qu'il a fait une petite plus-value latente. D'accord? Du coup, Jean-Michel est un as de l'immobilier et Jean-Michel conseille à Paul, et oui, Jean-Michel conseille à Paul d'arrêter de jeter son loyer par les fenêtres. Et Paul, comme il n'y connaît a priori rien sur le papier, commence à se poser la question. Prenons les chiffres. Prenons les chiffres, les amis. J'ai juste oublié de vous donner une info. c'est que Paul, vivant à Paris, avec 4 500 euros par mois et un loyer de 1 200 euros, malgré ça, Paul ne met pas beaucoup d'argent de côté. Du coup, Paul a 20 000 euros sur son livret A de côté et pas beaucoup plus. Ok? Donc ça, c'est la situation de Paul à date. Ok? Il décide de poser les chiffres. Donc pour habiter dans une surface équivalente, on va regarder en gros les 30-35 mètres carrés. Donc Paul check toutes les annonces. Il regarde, concrètement, il ne veut pas bouger de quartier, il veut rester au même endroit. Du coup, Paul regarde un 32 mètres carrés. Il est tombé sur un 32 mètres carrés. Il est en bon état. Il n'est pas full rénové, mais il est en bon état. Donc, techniquement, Paul n'a même pas besoin de faire de travaux. Peut-être un petit coup de peinture, un petit coup d'ameublement, mais rien de grave. D'accord? L'agent IMO lui met la pression. Quand il fait des visites, Paul a rarement fait des visites de bien IMO. Donc en fait, il tombe dans la plupart des pièges tendus par les agents IMO. Les agents IMO qui m'écoutent. Calmez-vous, j'ai pas dit que tous les agents IMO étaient des escrocs. Mais il faut reconnaître que on n'a pas toujours l'élite de l'élite intellectuelle dans les négociateurs. Et c'est pour ça que, parenthèse, c'est pour ça que je donne des cours dans l'école numéro 1 d'immobilier en France, à savoir l'ESPI. C'est pour ça que l'ESPI forme des personnes pour justement être l'élite de l'immobilier de demain. Mais, ne me dites pas que dans la profession, il n'y a pas Janine en reconversion qui était avant primeur, d'accord? Et d'un coup, elle s'est dit, ah, tiens, je vais vendre des apparts. Ok? Ça existe. Et du coup, Janine, quand elle fait visiter à Paul, Janine met la pression grave. Elle lui dit, le marché est très tendu en ce moment. Il faut agir vite. J'ai reçu 4 offres hier alors que Janine n'a pas reçu d'offres. Janine n'a pas reçu d'offres. Mais Paul y croit. Parce que Paul est un particulier. Et les particuliers ont généralement ce qu'on appelle l'effet coup de cœur. Et oui, les amis, l'effet coup de cœur. Donc Paul, il a la pression. Il rentre chez lui, il a pris des petites photos, il débriefe à ses potes qui n'ont pas, eux, encore investi dans l'IMO, acheté leur résidence principale. Et du coup, il pose les chiffres, il se dit, ok, donc l'appartement, il est à 11 500. 11 500, 32 mètres carrés, ça fait 368 000 euros. Donc Paul, sur le papier, se dit 368 000 euros, ok, ça me semble cohérent, c'est dans mes budgets, etc. Et du coup, Paul anticipe quand même. Et regarde combien, quels sont les frais à prévoir à côté pour une résidence principale. Je précise, pour une résidence principale. Et mine de rien, il y a les frais de notaire, les amis. Eh oui, 368 000 euros. On va compter 7,5% de frais de notaire, sachant que ça peut être un petit peu plus. Mais partons déjà sur cette moyenne. Ça nous fait 27 600 euros de frais de notaire. OK? Je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de travaux. Il y a un peu d'ameublement, un petit coup de peinture, mais rien de grave. Donc, on va prévoir une enveloppe de travaux de 4 000 euros. D'accord? Et la banque de Paul lui dit que les frais bancaires ne sont pas négociables. Donc, Paul accepte d'avoir 1 500 euros de frais de dossier bancaire. Si on résume, on fait du coup 368 000 plus 27 600, plus 4 000, plus 1 500, ça nous fait un coût total d'acquisition de 401 100 euros. 401 100 euros, d'accord? Pour résumer, c'est pour un 32 mètres carrés. Hein. Donc, 32 mètres carrés, prix annoncé sur le papier, on était à 11 500 euros du mètre. Et oui, parce que c'est une petite surface, et petite surface, ça se vend plus cher que les plus grandes surfaces, d'accord? Au mètre carré. Du coup, on n'est plus sur du 11 500 du mètre. On est en coût total, avant de prendre en compte un élément très important, mais je vous garde la surprise pour après. Coût total, on est à 12 500 euros, les amis. 12 500 du mètre. Là, déjà, sans avoir bien rénové l'appart, sans avoir fait une pépite qui deviendra, là pour le coup, une machine à cash, on est déjà à un coût de revient à 12 500. OK? 12 500. Hein. Donc, coût total d'acquisition. 401 100. Paul est primo-accédant. Donc Paul peut accéder au crédit plus facilement parce que le Haut Conseil de stabilité financière a ouvert les vannes ces derniers temps pour les primo-accédants et notamment d'ailleurs les investisseurs, mais on en reparle après. Pour monsieur tout le monde qui souhaite acheter sa résidence principale, qui achète sa première résidence principale, on a le droit de déroger à la règle des fameux 35% d'endettement. C'est pour ça que Paul va, avec ses 4 500 euros, pouvoir emprunter 368 000 euros sur 25 ans. Il va s'arranger de son côté pour mettre la totalité de son épargne et emprunter à ses proches, parents et amis les quelques 10 000 euros qui manquent. D'accord, pour les travaux, les frais de dossier bancaire qui ne sont pas financés par la banque parce que Paul n'a même pas demandé, puisque Paul ne maîtrise pas les dossiers de financement. Et du coup, Paul va emprunter 368 000 euros sur 25 ans. Et oui, parce que sur 20 ans, la mensualité ne passait pas. Mais 25, ça passe. Faisons juste le détail des chiffres, les amis. Un taux à 4,09% sur 25 ans, c'est les taux actuels. D'accord? On est actuellement le 7 avril 2024 sur le site Meilleur Taux. On est à 4,09 sur 25 ans, 0,34 d'assurance, ce qui nous donne 2065 euros de mensualité. D'accord? Je sais, il y a beaucoup de chiffres. Ça va. C'est facile quand même ce que je vous dis. Ok? 2065 euros de mensualité. Du coup, sur 4005, c'est-à-dire qu'il lui restera un peu moins de 2400 euros. Ok, pour vivre. Sauf que Paul a oublié un élément, un petit élément, très très léger. C'est qu'en fait, quand on est un particulier, quand on est un particulier, les amis, il y a ce qu'on appelle les intérêts d'emprunt. Et quand on est un particulier, les intérêts d'emprunt, on les paye sur de l'argent qui vous a été versé par généralement votre employeur. D'accord? Donc cet argent a déjà subi une division par deux avec les charges patronales. D'accord? Donc votre employeur a déjà payé 2 euros pour que 1 euro arrive dans votre poche. Et derrière, à 4005, vous payez une petite dose d'impôt. Eh oui. Et donc en fait, vous allez pouvoir payer vos 2065 euros de mensualité sur de l'argent qui aura déjà été lourdement taxé à plus de 70%. Et oui, les amis, parce que si vous enlevez déjà 50% avec les charges plus vos impôts, on est à plus de 50%. N'oubliez pas comment ça fonctionne. OK? Donc déjà, il y a ce premier sujet. Et c'est surtout, la somme des intérêts sur 25 ans représente 251 512 euros. 251 512 euros. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul sera l'heureux propriétaire d'un immense T2 de 32 mètres carrés et il sera définitivement propriétaire à l'âge de ses 54 ans. Mais quel rêve! Quel rêve, franchement! Avec 4 500 euros de rémunération, en plus, à l'époque, François Hollande vous aurait qualifié de riche, mais effectivement, vous êtes. En fait, c'est Byzance, 32 mètres carrés, ok? À combien est revenu cet appartement quand on cumule le tout? On est à 652 612 euros. 652 612 euros, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, il n'a pas acheté à 12 000, à 11 500. Il n'a pas acheté à 12 500. Il a acheté à 20 394 euros du mètre. Est-ce que tu comprends, Janine? 20 394 euros du mètre. OK? Ça, c'est ce qui te guette si tu achètes ta putain de résidence principale comme 99% des particuliers qui sont des pigeons parce qu'ils ne maîtrisent pas la fiscalité et l'investissement. D'accord? Donc tu payes deux fois plus cher pour avoir une capacité d'emprunt qui est flinguée sur 25 ans, pour vivre dans un appart qui n'est pas l'appart de tes rêves, et pour derrière, eh oui, Parce que là, on va me dire, mais oui, mais sur 25 ans, il va faire une plus-value. Calme-toi. Justement, dans tous les exemples que je vous donne, si vous suivez ce podcast régulièrement depuis 2021, dans tous les exemples que je vous donne, je vous prends des valorisations très, très, très pessimistes. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que la plus-value, elle se fait à l'achat. Elle ne se fait pas sur la durée. Sur la durée, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on n'anticipe pas. En fait, anticiper une plus-value future, ça s'appelle de la spéculation. D'accord? Nous, on ne spécule pas. On investit. C'est la grosse différence. Et là, anticipons du coup la plus-value, parce qu'il y en aura une, effectivement. Mais on va la valoriser à 1% par an. OK? 1% par an en valorisation du prix du mètre carré. Qu'est-ce que ça nous donne sur 25 ans? Ben 1% par an sur 25 ans, ça nous donne une valeur de revente, sachant que, attention, là on a compté, juste pour que vous ayez toutes les métriques en tête, pour vous expliquer à quel point c'est une énorme connerie. Mais c'est pas grave, je sais qu'il y en a plein, ils sont là, ils sont en couple, truc. Il y a le copain ou la copine qui veut acheter sa résidence principale pour se sentir chez soi, etc. Et vous allez plonger. 99% des gens vont plonger, je le sais. Mais au moins, je vous l'aurais dit. Au moins, je vous l'aurais dit, les amis. On est du coup sur une valeur à 471 000 euros. On a anticipé qu'il n'y avait aucun travaux de copropriété sur 25 ans, ce qui est impossible. On a anticipé qu'il n'y avait aucune envie de faire des travaux à l'intérieur de l'appartement. Parce que laisser un appartement avec peinture, salle de bain, cuisine et l'user pendant 25 ans, surtout pour une petite surface, je ne vous raconte pas l'état dans 25 ans. D'accord? Même si vous êtes soigné, il faudra toujours refaire des travaux. Donc, je suis gentil, je ne le prends pas en compte. Mais sachez que ça vient s'ajouter. D'accord? Malheureusement, ça ne vient pas se soustraire. Contrairement à ce qu'on va voir juste après. Donc, si 471 000 euros prix de revente, on va dire que d'ici là, il y aura toujours l'exonération d'impôt sur la plus-value sur la résidence principale. D'accord? Donc, ça nous fait quoi? Ben, ça nous fait coût de revient du bien 652 612. Prix de revente. Au bout de 25 ans, 471 000 euros. OK? Ce qui nous fait une magnifique moins-value qui ne prend pas en compte, je le répète, les éventuels travaux de copropriété au cours des 25 années, ni les éventuels travaux à l'intérieur de l'appartement au cours des 25 années. Ce qui nous fait une magnifique moins-value de 181 000 euros. Voilà. Ça fait rêver, non? J'avoue que ça fait rêver. Et le pire, c'est que c'est malheureusement ce qui vous guette. C'est ce qui vous guette, d'accord? Si vous ne vous renseignez pas sur le putain d'investissement immobilier, d'accord? Pourquoi je vous tanne avec ça? C'est que maintenant, on va faire la version de Paul, d'accord? Paul, il a suivi les programmes de Louis Doucet. Ah, je sais, je parle de moi à la troisième personne, là, ça commence à partir en couille. Mais. Les amis, vous savez très bien que je le dis sur un temps décalé. Calmez-vous. Paul, du coup, décide finalement de faire machine arrière. Il se dit que Jean-Michel de la Conta dit peut-être deux, trois conneries. Et il est en train de se dire qu'il est en train de se mettre le doigt dans un engrenage fou qui va l'empêcher à la fois de développer du patrimoine en parallèle. Ça va l'obliger à passer d'une mensualité en loyer de 1200 euros à 2065 euros. Donc, c'est-à-dire qu'il augmente ses coûts fixes pour vivre dans un appartement à la même taille. D'accord? Il a compris qu'il n'allait rien pouvoir déduire. Il a compris qu'en réalité, son prix d'achat n'est pas le prix d'achat constaté. D'accord? Mais oui, les amis, parce que je vous mets au défi, regardez autour de vous. Parlez aux gens qui ont acheté des résidences principales, demandez-leur leur coût d'achat. Qui anticipe les intérêts? Qui anticipe les intérêts? Qui ajoute au prix au mètre carré les frais de notaire? Qui ajoute au prix au mètre carré les éventuels frais de dossier bancaire? Qui ajoute au prix au mètre carré les travaux? Et oui, les amis, la plupart des gens ont des métriques biaisées. Et vous savez pourquoi? Parce que l'idée même de poser des chiffres sur un papier pour parler de leur situation, de leurs finances personnelles, alors que les mêmes travaillent du lundi au vendredi pour de l'argent, cette idée est insoutenable pour la plupart des gens. Et du coup, ils ne font pas les mêmes choix que Paul version 2. Parce que Paul, du coup, a développé des compétences en fiscalité et en montage d'opérations. Et on va utiliser la même somme. On va juste la répartir autrement, un petit peu plus intelligemment. D'accord? Donc, Paul a toujours cette même capacité avec son revenu. D'accord? Il peut lever 368 000 euros en faisant cette fois du locatif. Ok? Paul a regardé un petit peu. Il s'est formé, il a trouvé des villes rentables en France, mais surtout en Île-de-France, même si, je vous le rappelle au cas où, des villes en France rentables, il y en a des milliers, d'accord? C'est même pas un sujet, c'est juste qu'on était sur un exemple de Paul qui habite à Paris dans le 15e, donc je ne vais pas le faire investir à Perpignan. Même si Perpignan, parenthèse, j'ai des investisseurs dans les banques d'information qui sont à Perpignan. Et salut à vous, et vous savez que ça marche aussi, bref. Bref, donc Paul décide d'acheter sur 2 ans. Il se fixe un plan sur 2 ans. Avec, en 2 ans, on a 4 fois 6 mois. Et 6 mois, c'est une opération IMO. Donc Paul est un petit peu plus malin que la moyenne. Il arrive à matrixer son cerveau pour se projeter à horizon de 6 mois. Ouh ! Et après, horizon de 12 mois, incroyable. Et après, horizon 18 mois. Et après, horizon 24 mois. Incroyable. Ouais, c'est trop long. Ouais, je préfère scroller sur TikTok. Eh ben, vas-y, gamin. Du coup, Paul, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il se dit qu'un cycle d'investissement IMO, c'est 6 mois. Avec les recherches qu'il a réalisées, il se rend compte qu'avec la même capacité d'emprunt, il est en capacité d'acheter 4 appartements, 4 T2, d'accord? En Île-de-France, qui sont reliés au transport en commun, dans des villes avec une très forte demande locative. 4 T2, moins de 100 000 euros, c'est impossible. Oui, oui, d'accord. Fais tes recherches et ferme ta gueule, d'accord. Donc, 4 T2 à 85 000 euros. Et oui, les amis, 4 T2 à 85 000 euros, qui vont générer en moyenne 8,5% brut de rendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va prendre le coût total d'acquisition, pas le prix d'achat, juste le coût total d'acquisition, incluant frais de notaire, etc. Et on va chercher du 8,5% de rendement sur de la location longue durée, je précise. Pas de courte durée, pas de colocation, pas de sous-location. Non, location longue durée. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, donc Paul va échelonner ses acquisitions sur 2 ans. Donc la première année, il va acheter 2 appartements. D'accord? Les 2 appartements, il fait donc une acquisition. Ah, attendez. Je m'étais noté mes chiffres et là, je ne les vois plus. Je vais faire une Yann Barthès. Attendez, j'ai plus mes notes. Non, attendez. On était sur 85 000, mais c'est pas grave. On va les recalculer ensemble. C'est pas très, très grave. 85 000 euros quand vous mettez des frais de notaire, je vais être transparent. Vous savez quoi? Je vais même me tirer une balle dans le pied. Je vais vous dire que les frais de notaire, ils sont supérieurs à l'acquisition de résidence principale puisqu'on est sur moins de 100 000 euros, on va se mettre à 8% au lieu de 7,5. Donc ça fait 6 000 8. Ok? 6 000 8. Donc en gros, au total, ça vous fait sur les 4 acquisitions un apport des frais de notaire qui représentent au total sur les 4, hein, 25 500 euros. Ok. On va intégrer dans les travaux, enfin, dans le projet, pardon, des travaux de rénovation énergétique. On refait tout de A à Z. Comme ça, l'appartement est parfait au niveau de la plomberie, au niveau de l'électricité, au niveau de l'isolation acoustique et au niveau de l'isolation énergétique. OK? Comme Paul s'est fait accompagner par Louis Doucet en personne, Paul a réussi à intégrer du coup son financement travaux dans les 85 000 euros dans son financement bancaire. Et oui, ce qui permet à Paul de lisser ses travaux sur toute la durée d'emprunt et non pas de faire un prêt travaux comme la plupart des particuliers qui vont faire un prêt travaux sur 5 ans, 7 ans, qui vont s'ajouter des mensualités qui les mettent en cash flow négatif. Et oui, les amis. Donc Paul intègre gentiment tout ça et il applique. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la première année d'exploitation? Bah, du coup, Paul a acheté deux apparts. Les deux apparts, je le rappelle, il a emprunté 85 000 euros par appart. Tout le reste, à savoir, bah, en fait, les frais de notaire ont été mis de sa poche. Je vous rappelle qu'il avait 20 000 euros d'épargne et qu'il met au total sur les quatre apparts moins d'apport que s'il avait acheté sa résidence principale au même prix. D'accord? Résultat des comptes. Appartement numéro 1, 8,5% de rendement sur cet actif, ça nous fait 7 760 euros de loyer. D'accord? Donc ça, c'est un encaissement de 7 700 chaque année. Le remboursement du prêt sur 20 ans cette fois, pas sur 25, sur 20 ans cette fois, on est à 6 400 par an. Ce qui veut dire que ça nous fait une marge brute entre le loyer et la nuitée de 1 300 euros. OK? 1 300 euros, ça fait en gros une centaine d'euros par mois. On va être très transparent sur le sujet. J'ai pris des chiffres qui sont pas forcément les plus sexy. Histoire qu'on ne tombe pas dessus, genre tu vends du rêve, etc. On peut faire 100 fois mieux que ça. D'accord? Mais gardons ces chiffres. On va dire que le cash flow restant, la marge brute restante, va juste payer en gros l'échange de copropriété, l'assurance du bien et la taxe foncière. Et qu'il ne reste pas de marge, quasiment pas de marge. C'est dérisoire, peut-être une trentaine d'euros par mois. OK? Enfin, si c'est pour faire ça pour 30 euros, je ne vois pas l'intérêt. Oui, calme-toi, Dylan. Capitalisation, les amis. Combien on capitalise en faisant ça? Vous savez ce que c'est la capitalisation? C'est que quand on rembourse un crédit, OK? Quand on rembourse un crédit, il y a une part d'intérêt, il y a une part d'assurance, il y a une part de capital. Du coup, quand vous regardez ce qu'on appelle un tableau d'amortissement, chaque année, quand vous payez du coup votre annuité, la somme des 12 mensualités, vous avez capital restant dû et vous voyez que ça a baissé puisqu'il y a une part de capital sur l'annuité et derrière, il y a les intérêts, etc., etc. Donc la première année, ah non, 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 je vous ai fait une moyenne de capitalisation sur la durée. Oui, c'était plus simple. En moyenne, Paul amortit sur l'appartement numéro 1 4 250 euros. OK? Et la part d'intérêt, on est à 2 180 euros. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ben là, la différence, c'est que les intérêts, on va les déduire de nos impôts. On va déduire 2 180 euros de nos impôts. Sans compter tous les amortissements, etc. Mais je vous passe sur la fiscalité. Je vous passe sur la fiscalité. Pourquoi? Parce que on paye 0 euro d'impôt. 0 euro, 0 centime. Voilà. Et c'est impossible. Oui, d'accord. C'est peut-être qu'il te manque 2-3 compétences alors. Pose-toi des bonnes questions. Du coup, ça, c'est l'appartement numéro 1. Pour faciliter l'exercice, on va dire qu'on achète le même appart, enfin un appart vraiment équivalent, avec les mêmes prix, les mêmes chiffres, les mêmes rendements dans la même ville, ce qui est largement faisable. Du coup, année 1, on aura acheté deux appartements qui génèrent tous les deux 7 700 par an, qui s'autofinancent, qui nous permettent le cumul des deux d'amortir 8 500 euros sur la première année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est enrichi de 8 500 euros sur la première année. Et en plus de ça, on va déduire de nos impôts 2 180 x 2, ce qui nous donne 4 360 si mes calculs sont bons. on peut déduire la première année 4360 euros d'intérêt des impôts.
Eh oui, les amis. Eh oui.
Maintenant, on va passer à l'année numéro 2. Année numéro 2, on va faire le même type d'acquisition. D'accord? Donc, pour rappel, en fin d'année numéro 1, on a amorti, on a remboursé, on s'est enrichi. Notre patrimoine a grossi de 8500 euros, puisqu'on a déjà remboursé. Et du coup, en fin d'année 2, avec les deux nouvelles acquisitions qui seront deux nouvelles acquisitions équivalentes, prix équivalent, etc., etc., je vous rappelle que tout ça reste dans l'enveloppe des 25 000 euros d'apport du début. Hein. Les 25, c'est pour les 4, hein. C'est pas pour 1, c'est pour les 4. D'accord? Et du coup, fin de deuxième année, on aura amorti les 8 500 de la première année, plus les 17 000 de la deuxième. Eh ben oui. Pourquoi? Bah, 8 500, si c'est pour deux apparts, à partir du moment où tu en as 4 et que tu as fait une deuxième année d'exploitation complète, tu as cumulé du coup 8 500 sur les deux premiers, plus 8 500 sur les deux deuxièmes. D'accord? Ce qui nous donne 17 000 euros. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en 2 ans, en 2 ans, en 2 ans, tu auras cumulé 8 500 plus 17 000, année 1, 8 500, année 2, 17 000. Le total, ça nous donne 25 500 euros, les amis.
Non.
Bon, non, c'est pas possible, c'est pas possible. T'es pas en train de me dire que l'apport que j'ai mis de ma poche, en investissant intelligemment, je l'ai récupéré en 2 ans. Non, non, je suis pas en train de te dire ça. T'inquiète pas. Retourne swiper sur TikTok. Eh ben oui, les amis. Et qu'est-ce qui sera passé au bout des 2 ans? On aura encaissé du coup 31 000 euros de loyer. Ah oui, ça va vite. 31 000 euros de loyer. Et combien d'euros d'impôts à ton avis? Mais pas un centime. Pas un putain de centime. Ok? Tu comprends? Donc après, Paul, on va le projeter un peu sur les prochaines années. Paul connaît les normes du HCSF sur le bout des doigts. Et du coup, Paul sait qu'il peut retourner à sa banque, réemprunter en année 3 pour faire les mêmes opérations. Et du coup, Paul décide de faire ça pendant 10 ans. D'accord? Il a 29 ans aujourd'hui, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et il fait ça jusqu'à ses 39 ans. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? À ses 39 ans, les amis, Paul aura réussi à acquérir 20 biens immo. Ok? Il amortira en moyenne 85 000 euros par an de dette. D'accord? Il remboursera chaque année 85 000 euros. Il encaisse 155 000 euros par an. Ok? À l'âge de ses 39 ans. Avec des biens immo qui se seront payés tout seuls. Et son patrimoine brut hors plus-value sera de 1 700 000 hors plus-value au bout de 20 ans. Rappelez-vous, l'autre exemple, j'ai été gentil, je vous les ai valorisés à 1% par an. Vous savez pourquoi je ne vous ai pas fait le calcul? C'est juste qu'il fallait poser les chiffres, faire année 1, intérêt composé 1%, puissance 20, année 2, intérêt composé 1%, puissance 19, etc., etc. Ok? Je vous fais juste le calcul pour la première année, mais je suis sur la calculette de l'iPhone. Je vous aurais bien fait si j'avais mon ordi, mais ce n'est pas le cas, les amis. Donc, on va se faire 85 000 fois 1,01 puissance 20. Ouais, en gros, le bien au bout de 20 ans, il vaut 103 000 euros. Ce qui nous pousse à. Que je ne vous dise pas de conneries, parce qu'en gros, si on achète. Bon. En gros, partant du principe que dans. Donc là, c'est 39 ans, il y avait ça. Donc en gros, vers ses 50 ans, il faut compter à peu près que les apparts vont environ 100 000 euros pièce. Ce qui nous fait 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui génèrent, je le rappelle, 8%, parce qu'évidemment, les loyers augmentent. Et oui, les amis. En fait, l'avantage, c'est que l'immobilier, l'inflation permet d'augmenter les loyers. Et contrairement à toutes les autres classes de rémunération, genre les salaires ou les retraites versées par l'État, il n'y a pas de revalorisation en fonction de l'inflation. Eh oui, les amis.
Eh oui.
Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste sur un remboursement constant tous les mois et on a un loyer qui augmente chaque année. D'accord? Donc chaque année, on fait plus de cash flow. Chaque année, on a une possibilité éventuellement de rembourser la dette plus vite et du coup d'être indépendant beaucoup plus vite. Et oui, les amis. Et ça, ce cas-là, le cas de Paul, dites-vous que c'est même pas un génie. Genre, c'est. Honnêtement, c'est des résultats qui sont médiocres. Et je vous le dis en toute transparence, même si je sais que ça peut choquer. Je sais. Mais pourquoi je vous dis ça pour vous choquer? C'est que comprenez bien une chose. C'est que deux apparts par an, c'est peanuts. D'accord? Et là, on va me dire, oui, mais comment tu fais pour avoir à nouveau de l'apport, etc. Mais Paul gagne 4 500 par mois. Comme il ne s'est pas fait pigeonner, acheter sa résidence principale et s'ajouter plus de 1 000 euros par mois à son loyer pour rembourser un 35 mètres carrés, d'accord? Bah, Paul, en fait, met l'équivalent de ce qu'il aurait mis dans sa mensualité de côté tous les mois. Et en fait, Paul, oui, a les capacités de remettre systématiquement de l'apport. Sans compter que la banque, maintenant qu'elle a compris comment Paul fonctionnait avec l'argent et qu'il sait gérer son argent, ben en fait, elle lui fait plus de facilité, disons. Parce qu'il faut bien savoir un truc que j'ai appris, pour être transparent, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 1 an et demi, ça, ouais, 1 an et demi, je signe un bien immo et la banque m'a ouvert une ligne de crédit pour me dire, alors on ne vous a pas financé les frais de notaire, vous les avez mis de votre poche, mais si vous voulez, on vous ouvre une ligne de crédit, vous l'utilisez pour financer vos frais de notaire. Et oui, les amis. En fait, c'est les banques. Bon, d'info, je ne l'ai pas fait parce que j'en avais pas l'utilité. Mais les banques, comprenez bien une chose, c'est qu'à partir du moment où elles ont des clients qui gagnent de l'argent avec des financements, c'est-à-dire que ça leur fait gagner de l'argent à eux, puisque vous avez bien vu les intérêts d'emprunt, ils se gavent sur 20 ans, sur 25 ans. Rappelez-vous, le cumul, c'est 251 000. Okay? C'est-à-dire que la banque a quasiment gagner la valeur de ton putain d'appart. Bien, bien comprendre. Hein. Ça, c'est genre le pigeon qui pense que quand tu empruntes 100 000 à 4%, tu vas rembourser 104 000. Mais en fait, c'est vraiment que tu as un déficit mental. Genre vraiment. Hein. Faut bien, bien comprendre ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est tu vas payer 4% sur le capital restant dû durant toute la durée du crédit. Donc, c'est 4% sur 100 000 la première année. Ensuite, c'est 4% sur, je sais pas, je vais dire un truc au pif, 95 000 la deuxième année. Ensuite, c'est 4% sur 90 la troisième, etc., etc. OK? Et en réalité, c'est plus lent que ça. Et oui, les amis, c'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, comprenez bien une chose. C'est que pourquoi on a mis en place tout ce qu'on fait depuis des années maintenant sur les réseaux, avec la masterclass, nos programmes, nos accompagnements. Vous comprenez une chose, c'est que quand vous avez des compétences à situation équivalente, vous pouvez faire des miracles. Paul, là, devient multimillionnaire. Ah oui, multi, ça commence à partir de deux. Paul devient multimillionnaire en faisant des choix basiques. D'accord? Paul n'est même pas un génie. OK? Et là, on va me dire, oui, mais Paul, il gagne 4 500, moi, je gagne rien. OK, mais et alors? Et alors? Quel est le problème? Moi, j'ai commencé à investir dans l'IMO, je gagnais moins de 4 500. Je vous le dis tout de suite. Tout est une question de choix. C'est juste que Paul, par exemple, là, dans cette hypothèse, va faire le choix de rester vivre beaucoup plus longtemps, quelques années de plus, dans un appartement plus petit. Il va vivre en dessous de ses moyens. Mais en fait, Paul, à 40 ans, va pouvoir partir à la retraite. Alors que tous ses potes, dont Jean-Michel de la Compta, eux, ils vont bosser jusqu'à leur mort, puisqu'il n'y aura pas de retraite. Et oui, parce qu'en fait, les gens se disent encore, ah oui, il va bosser jusqu'à ses 67 ans. Mais non, en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que mathématiquement, c'est impossible. Ouais, mais pourquoi on n'en parle pas aux 20 heures? Bah, parce qu'en fait, regarde, quand ils ont essayé de bouger un tout petit peu la réglementation et réformer le système des retraites, c'était la guerre. Est-ce que tu vois aux 20 heures un membre du gouvernement annoncer qu'il n'y a plus de retraite? Ils ont peur de l'annoncer, sachant qu'en plus, ça n'arrivera pas demain. Ils auront le temps de terminer leur mandat, ils ne seront plus au pouvoir, ce sera plus leur problème. Parce qu'en fait, ce sera toujours votre problème. Comprenez bien une chose, c'est que les membres du gouvernement et des différents gouvernements qui passent, j'ai rien contre les gouvernements en place actuels, je m'en fous en fait. On ne compte pas sur eux. Ok, encore une fois, j'ai commencé sous François Hollande, je suis passé derrière par Macron et truc, et demain, ce sera une autre personne, et encore une autre, et encore une autre, et c'est sans fin, et on s'en fout en fait, parce que ça n'a pas d'impact. Comprenez bien ça. Donc bref, voilà pour le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Ça, c'est un sujet, en fait, c'est un cas pratique basique pour des choix basiques et des investissements basiques. OK? Tout ça, c'est ce qu'on fait H24 avec nos clients. OK? Donc ça, parenthèse fermée. Maintenant, je vais vous parler du 150 obiter. 150 obiter, qu'est-ce que c'est? C'est un report d'imposition. C'est même une exonération d'imposition sur les plus-values. Et oui, les amis. Ça demande quoi? Ça demande d'avoir une société qui détient une autre société. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas quelque chose que quelqu'un qui s'appelle Louis Doucet vous dit toutes les semaines. Quelle est la structure patrimoniale des gens qui ont de l'argent? Ils ont généralement une holding, les amis. Et oui, alors attention, je reprécise. Au cas où il y aurait un nouvel auditeur qui pense que truc. Paul, dans l'exemple d'avant, je ne lui ai pas dit de créer une holding tout de suite, d'accord? Mais par contre, Paul va créer au fil du temps une holding. Et on va voir pourquoi. C'est qu'en fait, quand vous avez une holding qui détient plusieurs sociétés qui investissent à la fois dans l'IMO, mais pas que, vous pouvez avoir aussi une société d'exploitation. Si par exemple, j'en sais rien, vous avez un salon de coiffure, une boulangerie, vous êtes plombier, vous avez une entreprise de BTP, vous êtes artisan, et j'en ai plein dans mes clients. Je pense à Josué quand je pense à ça, qui nous écoute, qu'on salue, qui est membre de la formation d'ailleurs, bravo. Depuis 2 semaines maintenant. Ben les amis, quand on a plusieurs sociétés et qu'on veut optimiser son imposition, on met en place des systèmes avec une holding. Et le 150 obiter, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen, quand vous avez une société qui est assujettie à l'IS, donc l'IS c'est l'impôt sur les sociétés, et qui est établie en France, il faut, dans les conditions que vous soyez directement à la tête de la holding, ok? Et que vous possédiez du coup une société que vous allez revendre, ok? Qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, ça vous permet tout simplement, si vous réinvestissez dans les 2 ans, non même pas, je crois que c'est 3 ans, attendez, je revérifie, tac, que je ne vous dise pas de bêtises, non, pardon, non, c'est bien 2 ans. Je vous donne un exemple. Admettons qu'on monte une société, par exemple, de, je sais pas, un salon de coiffure. Un salon de coiffure, on a fait un emprunt pour acheter le matériel, truc, bref. La société, on la développe, on la valorise, on arrive à la revendre 700 000 euros, 800 000 euros, allez, 1 million d'euros, c'est plus simple. 1 million d'euros. Ok, et on a fait une grosse plus-value sur cette société, sur les rachats de participation. Enfin bref, on s'est structuré avec une holding et il y a eu du rachat de parts de titres. Bref, ce qui fait qu'à l'issue, quand on sort de cette opération, il y a une énorme plus-value. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, si le particulier, en fait, si le coiffeur, si le gérant du salon de coiffure n'était pas renseigné en fiscalité, il se ferait éclater avec l'impôt sur les plus-values. On doit être à 25%, d'accord? 25%. Donc, admettons que tu fais, par exemple, 1 million d'euros de plus-value, tu perds 250 000. Tu perds 250 000, ok? Si tu maîtrises un tout petit peu hein, la fiscalité, parce que tu te fais accompagner par Louis Doucet et ses équipes, bah en fait, tu vas économiser 250 000 euros, tu comprends? Pourquoi? Parce que tu te seras structuré intelligemment et qu'en fait, on va t'expliquer comment ne pas payer d'impôts sur les plus-values. Et oui, parce qu'en fait, quand tu utilises ce mécanisme, qui s'appelle le 150 obéter, c'est un nom d'article de loi, d'accord? Si tu réinvestis plus de 60% de ta plus-value dans un projet, dans un autre projet, tu es exonéré de plus-value. Et vous voyez, ça, bizarrement, on n'en parlera pas aux 20 heures. Ça, bizarrement, on n'en parlera pas dans les unes des journaux. On ne parlera pas sur TPMP. On ne parlera pas à la télévision. On ne parlera pas sur les émissions débiles de télé-réalité. Ou encore moins sur TikTok. OK? Ça, c'est fait pour les gens qui font des choses intelligentes avec leur patrimoine et avec leur fiscalité. D'accord? Comprenez bien une chose, mes amis. C'est qu'en fait, ça, c'est des mécanismes qui peuvent vous paraître lointains. Mais justement, quand on part de zéro, vous devez à tout prix avoir toutes les infos en tête pour mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action, année après année, vous empilez des petites briques et étape par étape, vous allez arriver, étape numéro 1, on passe de « j'ai plusieurs apparts éventuellement avec des sociétés, notamment des SCI, etc. » à « je me structure avec une holding ». Je me structure avec une holding, éventuellement, je vais créer une nouvelle société avec laquelle ben, je vais potentiellement faire des plus-values sur les achats et reventes de titres, etc. Et en fait, justement, on passe ensuite à ce mécanisme-là, et ainsi de suite. Et après, une fois qu'on a ça, on va peut-être faire des levées de fonds, des choses comme ça. Oui, il faut bien comprendre un truc, c'est que tu peux partir d'un point zéro et arriver petit à petit à être un taulier financièrement. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Ça paraît peut-être trop beau pour certains. C'est peut-être que c'est pas fait pour vous. Mais sachez que tous ceux qui écoutent ce podcast, si vous êtes réellement intéressés par le sujet, la seule chose que ça vous demande, et c'est accessible à tous, c'est du temps. D'accord? Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Ou alors, je veux une preuve, une capture d'écran de votre temps d'écran passé sur votre téléphone portable, combien de temps vous êtes sur les réseaux sociaux chaque jour. À ça, je veux un chronométrage complet de tout votre temps passé sur des écrans en dehors du travail. Donc, vous totalisez télévision, Netflix, toutes les conneries que vous pouvez éventuellement regarder sur YouTube, etc., etc. Je veux déjà un calcul précis de ça. Première étape. Deuxième étape, combien de temps vous dormez? Combien de temps vous dormez? Est-ce que vous êtes obligé de dormir 9 heures? Non. Est-ce que vous êtes obligé de dormir 8 heures? Non. Non, les amis. Ça dépend ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Vous voulez être dans la moyenne ou vous voulez être au-dessus de la moyenne? Le but, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut écraser les autres, etc., loin de là. Encore une fois, la compétition, elle est avec vous. Parce que, encore une fois, vous partez tous à des niveaux différents. Il y en a qui partent avec 1500 euros par mois, il y en a qui partent avec 4500 euros par mois, il y en a qui partent avec 40 000 euros par mois, ok? Et d'autres avec plus. Donc, ça ne sert à rien de se comparer les uns avec les autres. Le plus important, c'est de se comparer entre vous et vous il y a un an, et vous il y a 2 ans, et vous il y a 3 ans, et ainsi de suite. Et c'est là où on voit et on évalue réellement la progression. Et c'est sur ça qu'on peut se baser pour péter tous les scores. Ok ? Donc voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez en tête quand même tout le contenu que je vous donne gratuitement ? Donc imaginez quand vous faites partie de nos clients. Ok ? Ce n'est pas possible de ne pas réussir. La seule chose qui fait que vous n'y arriverez pas, c'est si vous n'appliquez pas les conseils. Ok ? Mathématiquement, c'est implacable. Des milliers d'investisseurs et des millions d'investisseurs dans le monde ont fait la même chose. Nous, au sein de la formation, pour parler à notre échelle, on a des centaines de témoignages vérifiés sur Trustpilot. On a des retours constamment. On a fait une interview cette semaine qui est sortie d'ailleurs, je ne vous en ai même pas parlé, avec Kevin, le fameux. Il a levé 1,3 million d'euros en 5 ans. D'accord ? Vous voyez, avec la projection avec Paul, là, c'est 1,5, je crois. Je dis peut-être une canne. Bon, en l'occurrence, on n'est pas à 200 000 près sur ce truc, mais vous avez compris. Paul, vous avez vu dans cet exemple, je vous ai pris un exemple vraiment chill. Il fait ça en 20 ans. Kevin, et allez voir sur ma chaîne YouTube, il a fait ça en 5 ans. Ok, Kevin est membre de la formation depuis, même pas 4 ans. Il est membre de la formation depuis 2020. Ok ? Allez voir, écoutez l'interview en entier. Vous savez, Kevin, c'est quelqu'un comme vous et moi. Donc voilà, arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de regarder des conneries. Arrêtez de dépenser votre argent dans des débilités. Et j'en parlais sur le podcast avec lui. Franchement, je sais que certains aiment les trucs de marque, etc. Mais les amis, si vous prenez par exemple les transports en commun, vous ne pouvez pas avoir des trucs de marque. Okay, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise gestion de votre argent. Vous devez d'abord sécuriser votre patrimoine, vos finances, tout bien faire. Et après, vous pouvez acheter en illimité des articles de luxe, etc. C'est de la merde, c'est des conneries, d'accord ? Ça, ça doit être acheté avec des dividendes d'actions ou d'ETF qui tombent, mes trucs, et vous êtes là, vous allez cramer ça parce que vous n'en avez rien à foutre, vous n'avez pas travaillé pour. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais l'argent issu de votre temps de travail vendu ne peut pas être destiné à acheter un t-shirt de Keuk à 800 euros où il y a marqué Gucci dessus. Ok ? C'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez vraiment rien compris au système. C'est que ton putain de t-shirt à 800 euros, il ne vaut rien demain. En plus de ça, il ne montre à personne et il n'impressionne que les pauvres. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui regardent les habits, même les voitures, en fait, c'est des trucs qui impressionnent les gens qui prennent le métro, d'accord ? C'est des choses qui impressionnent les travailleurs pauvres. Mais ce qui impressionne les personnes qui font des affaires, etc., c'est les actifs, d'accord ? Sincèrement, je préfère avoir des t-shirts H&M ou Tati ou n'importe quelle autre marque basique avec des t-shirts à 1 euro. Mais par contre, avoir 150 appartements qui me génèrent plus d'un million d'euros par an de loyer pour vivre la vie que je veux, plutôt que dès le début, dès que j'ai commencé à travailler, employer tout l'argent qui passe par ma poche pour le cramer dans des fringues, dans éventuellement des vacances, même si les vacances, je mettrai un bémol sur le sujet parce que on peut s'enrichir des expériences avec les vacances. Mais les vacances, c'est vacances. Si c'est vacances pour cramer tout l'argent que tu gagnes à sur de ton front toute l'année, dans des boîtes, à l'autre bout du monde, finir bourré tous les soirs, etc. Bon, après, il faut que jeunesse se passe. J'ai kiffé faire ça à une époque, mais intellectuellement, c'est pas ouf. Et financièrement, c'est pas ouf non plus. OK? Et plus vous optimisez les choses tôt, en amont, plus vous avez un levier sur la durée. En fait, quand vous faites un point, bon là c'est difficile de vous montrer ça dans un podcast même filmé, et d'ailleurs on en reparlera, mais je suis en train de bosser sur une version filmée du podcast du dimanche et du mercredi en dehors des interviews. Laissez-moi le temps de me configurer un bon petit studio et on va se faire du podcast pour envahir YouTube, les amis. Et oui, parce que là déjà, bon, je vous ai même pas parlé de tout ça en fait cette semaine, mais les courbes de progression du podcast, j'attends encore. Je sais que là, on est au podcast 65. Je pense qu'au 67, on fêtera le all-time record. Ouais, on aura tout pété les scores. Parce que je voulais dire, les amis, à l'époque où j'ai arrêté le podcast, on était à un niveau encore un tout petit peu plus haut que là où on est aujourd'hui. Et je pense que d'ici deux semaines, vu la progression des audiences, on devrait l'exploser littéralement. Donc ça fait kiffer, c'est du travail long terme. Vous savez que vous êtes quand même plus de 10 000 au total à avoir téléchargé mes contenus gratuits. Ça fait kiffer 10 000 personnes. C'est-à-dire qu'on a eu de l'impact sur 10 000 personnes. D'accord ? Mettez 10 000 personnes dans une pièce. 10 000 personnes, c'est une taille d'une petite ville. OK ? Donc ça, ça fait kiffer. C'est grâce à vous. Merci beaucoup pour la confiance. Merci aux centaines de téléchargements de la masterclass. Ça me fait plaisir. Et s'il vous plaît, d'ailleurs, quand vous avez téléchargé la masterclass, faites-nous des retours. Moi, vos retours d'expérience m'aident à améliorer mes contenus. Et plus mes contenus sont qualitatifs, plus je vous apporte de la valeur, plus vous gagnez de l'argent. Donc en fait, c'est un schéma vertueux. D'accord ? Notre entreprise, parce que, en fait, je dis moi, mais en réalité, on est plusieurs derrière, d'accord ? Notre entreprise, nos équipes sont mobilisées pour la qualité des contenus et pour votre réussite réelle, ok ? Moi, je préfère avoir moins de clients, c'est pour ça qu'on a des tarifs qui sont à un certain prix. Je préfère avoir moins de clients, mais un accompagnement béton dessus, et du coup, une réussite parfaite. Que faire de la masse, dire aux gens tu vas devenir riche dans 6 mois avec de la colocation et de la sous-location et de la truc et du court durée et du machin, je fais du 19% dans l'Isère avec un immeuble à la campagne. Franchement, je laisse ça à certains, d'accord ? Même si j'aime pas dénigrer les autres parce qu'en réalité, je pense que il y a des bons sur tous les marchés. Et il y a des mauvais, mais il y a des bons aussi. OK ? Donc voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. Partagez-le. C'est important. On cherche, on recrute des commerciaux. Pas forcément en temps plein. Ça peut être en freelance. N'hésitez pas à nous contacter sur Insta. Abonnez-vous à ma page. Louis Doucet, Limitless, podcast LPDRG, le podcast le plus rentable du game. Et voilà les amis, merci beaucoup. On se retrouve mercredi pour un nouvel hors-série. D'ici là, prenez soin de vous. Mangez équilibré, faites du sport et économisez, investissez votre putain d'argent. C'est pour vous. Profitez de la vie. Ciao, ciao.